Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Le Parrain. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors j'ai dit Le Parrain, il faudrait dire Les Parrains en fait. Nous avons Le Parrain, Le Parrain 2, Le Parrain 3. Oui, ce qui est amusant avec les séries, c'est qu'il n'y a jamais de Parrain 1 ou de Dents de la Mer 1, c'est le titre brut. Donc Le Parrain 1972, Le Parrain 2 1974, Le Parrain 3 1990. Qui a réalisé ? C'est Francis Ford Coppola. Alors il faut dire un mot de Francis Ford Coppola. Il fait partie du club très fermé de ceux qui ont eu une double palme d'or. Alors parmi ceux qui ont eu cette double palme d'or, vous avez Ken Loach, alors, je ne cite pas les films, ce serait trop long, les frères Dardenne, Emir Kusturica, Billy August, Michael Haneke et Shohei Imamura. Donc l'originalité de Coppola, c'est qu'il va obtenir la palme d'or dans un délai assez court, puisqu'en fait, il aura la Palme d'Or pour Conversation secrète, et il aura ensuite la Palme d'Or pour Apocalypse Now. Alors, pour Conversation secrète, c'est ce qu'il a un petit peu révélé en France, près d'un public, je dirais, averti. C'est Gene Hackman, celui qui joue dans French Connection, qui est obsédé de l'écoute, qui pratique l'écoute pour des services secrets. Et à un moment donné, il croit que lui-même est écouté, et il va petit à petit détruire tout son appartement pour essayer de trouver qui l'écoute, alors qu'on peut penser que c'est une sorte de fantasme ou d'imagination. Donc, film assez original. Ensuite, l'autre Palme d'Or, c'est Apocalypse Now. Apocalypse Now, 1979. Et Apocalypse Now, donc, c'est un film pour lequel il y aura d'ailleurs une Palme d'Or ex aequo, Le Tambour de Volker Schlöndorff. Alors, Le Tambour, je dirais que beaucoup de personnes l'ont oublié, sauf quelques cinéphiles avertis. Par contre, effectivement, Apocalypse Now, ça n'a pas été oublié. C'était Brando, c'était Martin Sheen, avec la guerre du Vietnam représentée comme une sorte de combat perdu et d'évasion, de folie au fond de la jungle au fur et à mesure qu'on avance. Donc, deux palmes d'or et quelques films qui sont connus, même si Le Parrain ou Les Parrains sont vraiment les chefs-d'œuvre qu'il a pu tourner. Donc, on a quelques films avec des jeunes acteurs de l'époque, notamment Mickey Rourke, Outsider et Rusty James, en 1983-84, et d'autres films, peut-être moins connus, qui vont être présentés. Alors, on peut dire que depuis une dizaine d'années, il n'a pas tourné de films, comme d'autres. On a eu John Carpenter l'autre jour, et il n'avait pas tourné lui aussi depuis une dizaine d'années. Donc, Le Parrain, qu'est-ce qu'on peut dire sur Francis Coppola ? Sans être trop long avant de passer au parrain. Bon, Francis, au départ, il s'est fait appeler Francis Ford Coppola. Pourquoi Francis Ford Coppola ? Parce que comme tous les réalisateurs de sa génération, le dieu vivant, on a consacré l'émission à celui-ci, c'est Don Ford. Donc Francis Ford Coppola. Et il va abandonner ce patronyme un petit peu plus tard. Et il va donc mettre en place ces films très connus, que sont Les Parrains. Avant, il va quand même être scénariste. Il y a un scénariste célèbre, puisqu'à un moment donné, il va gagner un Oscar. Il y a en 1971 un film qui s'appelle Patton, film autobiographique sur le film, non biographique plutôt, sur le général Patton, réalisé par Franklin G. Schaffner. Il fait le scénario, il a un Oscar pour ce scénario. Et ça va se poursuivre donc pour le meilleur film, c'est-à-dire que Le Parrain 1972 et Le Parrain deuxième partie, 1974, deux fois Oscar du meilleur film. Donc, on voit que le film a été apprécié. Quant à Coppola lui-même, c'est difficile de le définir. On peut dire d'un côté qu'il est vraiment parfois démesuré. Par exemple, Apocalypse Now, on a pensé qu'il allait ruiner les studios. Il est resté au fond de la jungle pendant trois fois plus de temps que nécessaire. Des acteurs sont partis. Harvey Keitel a quitté le rôle qu'a pris Martin Sheen, etc. Et donc, il s'est vraiment perdu au fond de la jungle, sauf qu'il a gagné la Palme d'Or. Et là, du coup, ça a revalorisé tout son travail. Donc, un réalisateur qui a des qualités et des originalités. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite sur la manière dont il a évolué dans le cadre du cinéma? Bien, en fait, il a fait une école de cinéma, puis il a poursuivi, donc je le disais, en participant à un scénario, puis en tournant par la suite, à partir donc des années 70. Alors, restons sur Le Parrain quand même, puisqu'on ne va pas s'étendre, en disant une dernière chose. Coppola, c'est la famille. Alors, Le Parrain, c'est la famille, et Coppola, c'est la famille. Ça veut dire que dans ses films vont jouer Sofia Coppola, sa fille, vont jouer Talia Shire, qui est sa sœur. Talia Shire, c'est la sœur de Rocky, enfin la sœur, la fiancée de Rocky plutôt, avec un physique, bon, pas toujours extraordinaire, mais assez percutant. Il est l'oncle de Nicolas Cage, qui est un acteur aussi assez connu, et son père lui-même, Carmine Coppola, fera la musique du Parrain. Oui, on ne peut pas aller très aussi loin dans la logique familiale. Donc, il était fait pour faire le parrain, puisque le parrain, c'est la famille. Donc, Le Parrain, Parrain 2, Parrain 3. Alors, Il est difficile de résumer l'intrigue de chacun. Je vais juste essayer en 30 secondes chaque fois de résumer. Donc le parrain, c'est en fait le parrain joué par Marlon Brando, qui est Vito Corleone, qui a plusieurs fils et une fille. Il veut passer la main à ses fils, sauf que l'aîné, qui est joué par James Caan, acteur célèbre à l'époque, va être tué. Donc le cadet, qui est joué par Al Pacino, Michael, qui a eu un parcours d'études et pour lequel Marlon Brando envisageait une carrière d'avocat, une carrière politique, pour rendre les affaires de la famille légales. Et enfin, il y a John Cazale, le frère Fredo, qui lui réunit tous les défauts. On va le voir un petit peu plus loin. Et enfin, donc Connie Taliaferro, qui est la sœur de Coppola, et donc célèbre pour être la fiancée de Rocky. Donc le parrain Marlon Brando va être quasiment tué, donc il est en très mauvais état. Et Michael, donc Al Pacino, réussit à aller à l'hôpital au moment où il doit être assassiné, à le sauver. Et par la suite, donc, il va tuer lui-même les deux personnes qui sont à l'origine de ce meurtre. Il va partir prendre l'air en quelque sorte en Sicile, et puis il va revenir. Donc là, c'est la montée à peine au pouvoir de Al Pacino, c'est-à-dire Michael Corleone. Alors le parrain 2, pour moi, c'est le meilleur. Le parrain 2, c'est à mon avis le plus abouti dans sa structure, dans son scénario, dans sa réalisation. On passe d'une époque à une autre. La première époque, c'est la montée du futur parrain. Donc c'est Vito Corleone qui était joué Marlon Brando, vieux. Et là, c'est Robert De Niro, jeune, qui joue Vito Corleone. Et on a l'autre partie, c'est Michael Corleone, Al Pacino, qui va continuer sa montée et dans les affaires qui vont se développer petit à petit. Donc là, le parrain, enfin plus Vito, mais Michael Corleone, Al Pacino, essaie de devenir honorable, mais il n'y arrive pas. Il a promis à sa femme, mais Diane Keaton d'ailleurs, actrice qui était à ce moment-là la compagne de Woody Allen, qui joue donc l'épouse de Al Pacino, et petit à petit, elle va plus le supporter avec sa soumission aux affaires de la famille et pas à sa propre famille réduite. Le parrain 3, lui, on fait un saut dans le temps, parce que les deux premiers sont tournés en 1972-74, et ici, le parrain 3, c'est beaucoup plus tard, le tournage en 1990, et la situation, c'est 1979, 15 ans entre le deuxième et le troisième parrain. Donc cérémonie catholique dans laquelle on remet un ordre particulier à Al Pacino et il va défendre son empire contre notamment Eli Wallach. Alors Eli Wallach, c'est un acteur qui a fait l'Actor Studio qui est génial. Je cite simplement un rôle, Le Bon, la Brute et le Truand. Il fait le truand et il est absolument extraordinaire dans l'humanité, faible avec les forts, fort avec les faibles. C'est Eli Wallach qui est extraordinaire. Donc voilà pour résumer les deux, mais qu'est-ce qui est au centre du parrain? C'est la famille. Alors la famille, il la met lui-même dans sa vie, avec sa propre famille, et il va la mettre dans le film. On a donc le parrain, sa femme, qui est toujours mise au second plan, on ne la voit pas très très souvent en fait, et puis donc cette fratrie qui unit des acteurs et des actrices. Avec en plus, n'oublions pas, il y a un enfant qui a été adopté, qui s'appelle Tom Hagen, et qui est joué par Robert Duvall. Et Robert Duvall, il a joué dans le premier film de Coppola. Vous le trouvez d'ailleurs dans Apocalypse Now, où il fait un colonel complètement fou, qui fait atterrir un hélicoptère pour qu'un des militaires fasse du surf sur le. Là, donc c'est absolument extraordinaire. Et alors là, il fait celui qui est fidèle, le fidèle de tous les fidèles. Finalement, c'est peut-être le frère que Michael n'a pas. À un moment donné, d'ailleurs, il lui dit, tu es le frère, tu es mon frère préféré, mais en fait, par les liens du sang, tu ne l'es pas, mais les liens du cœur, tu l'es. Et donc, ce sont ces personnages principaux qui vont faire, je dirais, le sel du parrain. Alors, pour revenir sur le parrain 1, Marlon Brando était à ce moment-là en perte de carrière. C'est-à-dire que Marlon Brando est pour moi un acteur absolument extraordinaire. Il a tourné un seul film qui s'appelle La Vengeance aux deux visages, un western, où il a mis une originalité absolument extraordinaire. Et il va jouer des films, divers films, jusqu'à ce que les réalisateurs soient un petit peu lassés, parce que Brando, il a des exigences, il ne veut jouer que comme ça, il s'affronte à le réalisateur, et les producteurs, à un moment donné, ne supportent plus. Donc, il est quasiment fini, et puis là, tout d'un coup, pour jouer le parrain, il va se maquiller, il va prendre la tête du parrain, la future tête du parrain, et il va voir les producteurs, les réalisateurs, ils vont dire, ben oui, d'accord, Coppola le veut, vous l'avez, et vous le prenez. Et cela sera d'autant plus réussi qu'il aura l'Oscar du meilleur acteur. Il aura l'Oscar du meilleur acteur. Et ce qu'il fait d'ailleurs à cette époque-là, ça ne se fait pas trop, c'est qu'il ne va pas venir récupérer l'Oscar lui-même, il va envoyer une indienne, parce qu'il veut soutenir la cause des minorités opprimées. Qui fait ça à l'époque? Brando tout seul, et pas les autres. Donc, le parrain domine le film, et il laisse la main aux autres, il laisse la main finalement à celui auquel on n'avait pas pensé, parce que James Caan, Sony, est tué. John Cazale, et je vais venir, est complètement nul. Et finalement, Pacino, qui est le cadet, va reprendre en main l'affaire. Et quand il arrive à la première cérémonie du parrain, c'est un mariage, le mariage de Connie, la sœur, avec donc son époux. Et donc là, il arrive à Diane Keaton, habillé en militaire, parce qu'il a fait l'armée. Et il explique à Diane Keaton que celui-ci est celui-là, celui-ci est celui-là. Et il dit, voilà ma famille, je vais te décrire une scène. Mon père voulait faire signer quelqu'un. Et comment a-t-il fait? Eh bien, il y a eu Luca Brasi qui a braqué un pistolet sur la tête. Il lui a dit, où c'est ta signature, où c'est ton sang qui signe la feuille? D'où la fameuse phrase que tout le monde connaît, je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Donc ça, c'est la phrase. Il y a d'autres phrases aussi, des obsédés du parrain sont dans l'adoration pour quelques répliques. Vous avez un t-shirt qui est pose le revolver et prend les cannelloni. Alors, explication de cette phrase. Il s'agit du moment où Clemens, qui est l'homme de main, le chef lieutenant, part en voiture et est sur le siège avant. Et derrière, il y a un de ses collaborateurs. Et celui qui est assis au volant, on veut le tuer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence à le tirer en arrière, à l'étrangler, puis on tire dessus. D'où le fait que le revolver a fonctionné. Et la femme de Clemenza, quand ils sont partis, elle dit, n'oublie pas les cannelloni. Donc, Clemenza a acheté les cannelloni, d'où la réplique qui amuse certains, qui est laisse le revolver et prend les cannelloni. Une violence qui est quand même très forte. Et le paradoxe, c'est que finalement, Coppola arrive à donner une sympathie à une bande de truands qui. Alors, ils sont réglos avec le parrain, ils ne touchent pas la drogue. Marlon Brando ne touche pas la drogue. Et c'est ce qui va poser des problèmes d'ailleurs. Parce que si on va chercher à le tuer, c'est parce que James Caan, le fils aîné, serait prêt à venir trafiquer avec les autres. Et Brando refuse cette situation. Il va d'ailleurs montrer l'autorité paternelle de l'Italien. À un moment donné, il discute avec ceux qui proposent la drogue. Et James Caan prend la parole. Et Marlon Brando le coupe en disant, excusez-moi, mon fils n'est pas très bien élevé. Ça va pas. Et à la fin, il lui dit, quand je parle, tu te tais, tu ne dois pas prononcer un mot. Donc c'est le machisme italien dans son horreur la plus pure. Mais en même temps, c'est la famille. Donc on a des liens particuliers, des liens sur lesquels je vais revenir, mais après une pause supplémentaire. La première musique, c'était le parrain, la musique classique. Là, nous sommes sur le parrain 2 avec des nuances de différence. J'adore ce.
Thank you.
venons d'écouter la musique du Parrain 2. Ce Parrain 2 dont je vous disais qu'il est le plus réussi, pourquoi ? Parce qu'on suit donc les deux itinéraires. Alors, en dehors de Marlon Brando qu'il va réhabiliter en quelque sorte, puisqu'il aura l'Oscar, Coppola va découvrir deux acteurs qui n'ont pas encore beaucoup joué. Les producteurs ne sont pas tout à fait d'accord. Ce sont deux exemples de l'acteur studio dans ce qu'il a de plus fascinant. C'est Robert De Niro qui joue le parrain jeune et Al Pacino qui joue la suite de sa prise de pouvoir. Et on a toujours parlé des intrigues pour réussir à dominer le marché de ceci ou de cela. Le parrain Al Pacino, comme son père, ne veut pas normalement trafiquer dans des histoires de drogue, etc. Il hésite à entrer là-dedans. Il s'occupe des casinos. Et alors dans les casinos, il s'occupe effectivement des casinos classiques aux États-Unis, mais il va aussi se lancer à Cuba. Cuba, c'est l'époque de Batista. Alors il faut savoir politiquement, que vous connaissez certainement Fidel Castro. Fidel Castro a renversé Batista. Batista était le dictateur de Cuba et il a pris la suite. Il a pris ensuite la main pour le pouvoir donc. Et les bandits étaient présents ou les délinquants étaient présents dans les casinos. Il venait des États-Unis et en particulier il y a un acteur qui joue le rôle de Ayman Ross, c'est-à-dire le fondateur de l'Actor Studio, Lee Strasberg. Et le départ donc est effectué en catastrophe. Il faut quitter Cuba parce que Batista s'en va et donc on le suit. Et comme toujours, Al Pacino cherche qui lui en veut. Et en réalité, celui qui veut le tuer, c'est celui avec lequel il est en affaire, qui s'appelle Ayman Ross, donc, qui veut l'éliminer. Donc tout le problème ici, c'est de savoir, mais dans le premier aussi, qui est derrière les crimes qui sont commis contre la famille du parrain. Donc là, mettons qu'on a à chaque fois demi-heure ou 20 minutes de l'époque du parrain jeune, Robert De Niro, et ensuite 20 minutes, demi-heure du parrain nouveau, c'est-à-dire Al Pacino. Et Al Pacino, comme beaucoup d'Italiens, est attaché à des cérémonies catholiques, puisqu'on suit la communion de son fils, et ça donne lieu à une grande fête, avec aussi des politiques qui viennent là, puisque le clan Corleone paie les politiques, dans certains cas. Mais il y a une scène assez terrible, où l'homme politique qui a fait le discours, toujours l'homme politique de type américain, vous savez, les Américains, les présidents, regardez comment ils sont. Ils sont grands, ils ont des cheveux, ils sont minces, je ne sais pas pourquoi, ils sont tous comme ça. Sauf Roosevelt qui était paralysé, mais c'est exceptionnel. Donc là, l'homme politique fait un discours en disant c'est magnifique, Al Pacino fait une donation à des œuvres, et une fois qu'ils se retrouvent ensemble, l'homme politique va être méprisé, va dire écoutez, vos affaires italiennes à la noix, là, vous me cassez les pieds. Vous voulez vous installer dans telle zone maintenant, eh bien vous devez me payer tant d'argent. Et alors, Pacino réfléchit, l'homme politique lui dit, bon, décidez-vous, qu'est-ce que vous faites ? Il aurait dit, bon, d'abord, je ne vais pas payer, ensuite, c'est vous qui allez faire le paiement à ma place et qui va me donner l'autorisation. Alors l'autre est complètement catastrophé, mais il va lui arriver une aventure. Alors là, c'est typique du parrain, où c'est quand même pas reluisant, mais c'est comme ça. Je vous ai parlé de Robert Duvall. Robert Duvall fait le frère préféré, qui n'en est pas un, qui est le fils adoptif, et il est l'avocat de la famille. Il règle les problèmes. Ici, il va régler le problème de manière suivante. Il se trouve que l'homme politique est dans une maison de passe, et il va se réveiller. Il a une prostituée à côté qui est morte. Donc, on va appeler immédiatement le parrain, mais on imagine bien que c'est lui qui l'a organisé. C'est-à-dire, il l'a mis dans un tel état de détresse, il dit voilà, on dévoile votre situation, ou alors vous acceptez nos conditions. Et un autre élément dans le premier qui est assez violent et assez fort, c'est le moment où un réalisateur refuse de faire tourner un des proches de la famille Corleone, un cousin. Il s'appelle Johnny Fontane, en réalité ça renvoie à Frank Sinatra. Frank Sinatra était souvent proche de la mafia, et pour Tant qu'il y aura des hommes, c'était un rôle qu'il voulait, il semble qu'il ait, qu'il ait pu influencer celui qui a fait le casting. Donc là, le réalisateur refuse en le méprisant, vous italien aussi, dégagez. Et il se trouve que le réalisateur a un cheval de course absolument extraordinaire, et on voit un plan assez long. Alors le matin, la caméra avance sur le lit, comme ça, petit à petit, et puis il semble qu'il y a du sang sur le lit. Et puis le personnage du réalisateur qui a refusé pousse les couvertures. Et là, il a la tête de son cheval découpée qui a saigné. Donc, effectivement, c'est pas très ragoûtant. Donc, les deux interventions de Tom Hagen sur ce point sont un petit peu fortes, mais dans la logique de la mafia. Ce qui veut dire que rien n'est édulcoré. On n'édulcore pas. On montre la violence. Et parfois, on peut presque la légitimer, cette violence qui donne lieu dans le parrain à quelques scènes. Par exemple, quand le parrain est à moitié tué, il va tomber sur le capot d'une voiture. Ça, c'est Brando. Il glisse comme ça, petit à petit, il tombe. Mais c'est un acteur. Il n'y a que Brando pour faire ça, hein, la manière dont il le fait. Et donc, cette violence va se poursuivre avec notamment une scène assez forte. On a donc un homme de main classique qui s'appelle Luca Brasi, qui est envoyé par le parrain pour dire qu'il a trahi et qu'il veut rentrer dans l'autre groupe mafieux pour l'espionner. Il arrive, il pose ses mains sur le comptoir, et là, il y a une scène très très rapide. On lui pente un poignard dans le doigt, et quelqu'un dans la main, et quelqu'un d'autre l'étrangle derrière. Et c'est très très impressionnant pour l'époque. C'est une scène qui était vraiment très très forte. Donc là, la famille, toujours la famille, encore la famille, le parrain 3, donc c'est là où il va se rapprocher des enfants, les enfants qui vont être au départ un petit peu loin de leur père. Al Pacino adore sa femme, qui est jouée par Diane Keaton, mais il promet à celle-ci que d'ici 5 ans, il aura rendu les affaires légales. Sauf que 7 ans après, ce n'est plus le cas, et il dit à Diane Keaton, oui, il faut attendre un peu. Et finalement, elle va vouloir divorcer, ce qui est un drame dans la famille, parce que chez les Corleone, on ne divorce pas, ce n'est pas possible. On trompe sa femme comme le fait James Caan, et c'est tout. Donc on ne peut pas faire autre chose que cela. Donc la famille doit être respectée. La famille, la fille de Al Pacino dans Le Parrain 3, c'est qui? Elle s'appelle Sofia Coppola, la fille. Donc la fille du parrain, c'est la fille du réalisateur. C'est amusant comme situation. Et malheureusement, donc, ça finira de manière tragique, parce que, donc, je ne vous dis pas à la fin, mais c'est une violence sur les marches d'un opéra, avec des tueurs qui sont déguisés pour arriver à tuer le parrain. C'est ce qu'ils essayent de faire. Donc voilà pour, encore une fois, ces quelques remarques. Je vais en faire quelques autres, mais on va passer enfin en une autre musique.
Brugia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia dolorata, non si dà baci, ma chi m'ha nottata. Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, si non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cori. Chi si ti dà acqua idda e io si ti dà muri. A quella canto la me canzoni. Se non c'è nudo casa faccia allo barconi. Brucia la luna in cielo e io.
Donc dans le parrain, il y a ces éléments de famille, et je terminerai en donnant quelques remarques sur le couple et sur les enfants, sur la fratrie. Alors sur le couple classique, c'est bien sûr le parrain et son épouse. Ils sont là, c'est solide, c'est stable. Jamais Marlon Brando, le parrain, ne peut tromper son épouse, et la famille doit être en premier lieu dans ses pensées. Et d'ailleurs, dans Le Parrain 2, à un moment donné, Robert De Niro va tuer le mafieux du coin pour prendre sa place, et il le tue tranquillement, il descend, il va s'asseoir sur les marches d'escalier avec ses enfants, en disant « Ah, je vous aime mes enfants ». Donc, finalement, le meurtre comme, je dirais, nature. Et d'ailleurs, il va se venger aussi, parce que il faut savoir qu'au début du Parrain 2, on voit l'enterrement, c'est-à-dire le père de De Niro, enfin oui, le père de De Niro, le parrain petit, a été tué par un mafieux local. À l'enterrement, le frère de Niro est tué par le mafieux local. La mère veut le protéger, elle va voir le mafieux en lui disant, voilà, il n'y a plus que lui, il est un petit peu limité intellectuellement, il faut le laisser vivre. Et puis il refuse. À ce moment-là, la mère se précipite avec un couteau sur la gorge du mafieux, mais elle est immédiatement tuée par des hommes de main. Et à la fin, plus tard dans le film, Robert De Niro revient sur ses traces, il trouve le mafieux très âgé, diminué, mais il s'approche de lui et il lui plante un couteau dans le ventre, et comme ça, il a fait la vendetta. Donc, la vengeance est importante. Et la vengeance, donc, elle peut exister aussi dans le cadre de des frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que, je vous ai dit, il y a Sonny James Caan, frère aîné, puis il y a John Cazale, intermédiaire, il y a Al Pacino, il y a la seule fille, Connie, jouée par Talia Shire, et il y a Tom Hagen, joué par Robert Duvall. Donc, quels sont les rapports dans cette fratrie ? En fait, Sonny domine, hein, c'est un dominateur qui fait un petit peu trop de bruit par rapport à Brando. Brando le critique un petit peu en disant « mais tu n'es pas capable, effectivement il faut se maîtriser, etc. » Et finalement, il se fait tuer parce que sa sœur l'a appelé, parce que le mari de sa sœur l'a tapé. Et en réalité, il est vendu au clan adverse, et s'il a fait ça, c'est pour que James Caan vienne. Et il y a une scène qui à l'époque aussi était d'une violence assez forte, il arrive à un péage, et au péage, tout est fermé, et puis sortent les mitraillettes, il est bombardé de balles, il saute dans tous les sens, le sang gicle, etc. C'est assez, pour l'époque, c'est assez violent. Donc, éliminé. Bon, qui reste-t-il ? La sœur, bien sûr, elle est complètement catastrophée parce que son frère est mort. Et par la suite, d'ailleurs, Al Pacino va venger son frère en faisant tuer le mari de Connie. Et comme il ment, il dit, mais est-ce que... Quand on lui demande « Est-ce que tu l'as fait tuer ?» Il répond « Non ». Donc Diane Keaton lui demande « Est-ce que tu as fait tuer le mari de ta sœur ?» Il répond « Non ». D'ailleurs, je suis le parrain de son fils, donc je ne peux pas la tuer. C'est faux. Et donc, le rapport avec James Caan, bien sûr, est interrompu. Celui qui était destiné à parrain, c'est lui. Bon. Et après, il reste Tom Hagen, joué par Robert Duvall, qui sera l'avocat, qui sera le consigliere de la famille. Et il reste en position de considérer parce qu'il n'est quand même pas italien. Donc, il ne peut pas être le parrain. Donc, le parrain, c'est Al Pacino. Et alors là, on tombe sur le plus horrible dans le parrain, c'est le frère Fredo. Alors, Fredo, qui est joué par John Cazale, c'est une catastrophe. Fredo, il joue aussi dans le film où Voyage au bout de l'enfer, où on joue à la roulette russe du côté vietnamien. Donc là, il fait un type aussi un petit peu nul. Mais là, c'est catastrophique. Avec Fredo, donc John Cazale, bien sûr, Michael veut maintenir un lien. Sauf qu'il se rend compte qu'en fait, il a été trahi. Et il s'en rend compte parce qu'à un moment donné, il l'interroge sur un truand et Fredo lui dit « Non, je ne le connais pas ». Sauf que quelques scènes après, il se trahit en disant « Mais oui, quand on est sorti avec lui, tout ça ». Et Al Pacino comprend. Donc, il lui fait le baiser de la mort à son frère. En lui disant, écoute, maintenant, je sais que c'est toi, tu m'as brisé le cœur. Et Cazale essaie de se rattraper en disant, oui, mais je suis furieux, c'est toi mon petit frère, tu t'occupes de moi. Et Michael dit, mais écoutez, je ne voulais pas ça, mais j'irai jusqu'au bout. Et il y a une scène là aussi très famille, alors c'est une façon de vivre la famille très particulière. Donc, Al Pacino veut tuer son frère. Il a pris la décision de tuer son frère, John Cazale et Fredo. Mais il y a la maman. Il a leur mère, donc il sait qu'il ne peut pas tuer son frère tant que la mère n'est pas morte. Quand la mère meurt, immédiatement il fait tuer son frère. C'est la dernière scène du Parrain 2 qui est assez impressionnante. On voit John Cazale aller pêcher avec une autre personne. Il devait aller pêcher au départ avec le fils de Al Pacino, mais il ne le fait pas. On l'empêche, pourquoi ? Parce que dans la barque, on voit deux personnes debout, on entend... bruit de balle, et puis il y a une silhouette qui s'effondre. Donc, respect de la famille. On ne tue pas son frère tant que la maman n'est pas morte. Vous voyez, c'est quand même original dans la façon de vivre. Donc voilà, bon, on pourrait développer encore de nombreux éléments, parce que le parrain, c'est vraiment, la trilogie du parrain, c'est extrêmement riche, mais je crois que je vais arrêter là. J'espère que je vous ai donné l'envie de voir le parrain. Je vous confirme et regardez-le, le Parrain 2, c'est le meilleur, mais les autres aussi valent le coup. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Tiffaine Lemen. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.